Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Vous avez jusqu'au 1er mars, hein, vous le savez, pour contribuer à votre REER de l'année 2017. Et chaque année, on se pose un peu toujours les mêmes questions. Est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Il y en a qui vont même jusqu'à emprunter pour mettre de l'argent dans leur REER en se disant au moins je vais économiser un peu d'impôts sur mon revenu imposable, quitte à rembourser, puis d'ailleurs c'est idéalement ce que vous devez faire, quitte à rembourser avec le retour d'impôt que vous aurez, le prêt que vous aurez contracté. En même temps, vous avez vu ce qui s'est passé avec la bourse au cours des derniers jours. C'est toujours un peu inquiétant, et pour ceux qui ont mis tous leurs œufs dans le même REER, c'est le cas de le dire, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce qu'il vaut peut-être pas regarder autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? On a l'impression que c'est le REER et rien d'autre. Pour en discuter, André Boulay est avec moi. Il est comptable professionnel agréé, fiscaliste, auteur du livre « Réduisez vos impôts ». Merci d'être là, André.
Bonjour Isabelle, merci.
Lors de votre dernier passage, une couple de semaines, il y a eu tellement de questions, et en particulier sur le REER. On s'est dit, vous et moi, faut revenir, faut en discuter. Alors aujourd'hui, on parle de REER. Sur la question de la bourse, parce que c'était d'actualité encore jusqu'à hier, est-ce que les gens ont raison de s'inquiéter puis de remettre en cause leur participation au REER? Est-ce que c'est encore un bon moyen, même si on a vu des baisses incroyables qui ont créé beaucoup d'inquiétudes sur les marchés et dans la tête des gens, là?
Oui. Mais en fait, il faut peut-être regarder deux, trois éléments importants. Quand on parle de CELI, REER, REEE, c'est le véhicule fiscal. C'est le véhicule dans lequel on peut mettre des placements, qui est complètement différent des placements qu'on va mettre dedans. Alors, les placements qu'on va mettre dedans, c'est la même situation qu'on ait un REER, pas de REER. Le risque de l'investissement est quand même identique, qu'on soit à l'intérieur du REER ou pas. Ouais. Reste à savoir, est-ce que je veux avoir un rendement à l'abri de l'impôt ou un rendement qui n'est pas à l'abri de l'impôt? L'autre chose, c'est quelle est la fonction du REER? La fonction du REER...
La première
du REER qu'on oublie, c'est pour la retraite. Donc, en principe, ça va dépendre quel âge qu'on a et est-ce qu'on est capable de se permettre de mettre ces économies-là où on fait tout simplement économiser à court terme pour être capable, puis pour être obligé de le ressortir rapidement parce qu'on manque de fonds. Alors, il faut voir comment, dans notre stratégie de placement, on va aller vers quoi? Parce que si on a besoin à court terme de nos liquidités, allons vers le CELI. Mm-hmm. Ça va faire la même chose parce que les deux véhicules vont donner un rendement après impôt identique. Dans le sens que tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner un rendement à l'abri de l'impôt. Donc, si vous avez un rendement de 5 % qu'il soit à l'intérieur du REER ou qu'il soit à l'intérieur du CELI, à la fin, vous allez avoir un rendement réel de 5 % après impôt. C'est ce qui va faire le REER. On a tendance à avoir de mauvaises interprétations du REER. C'est sûr que c'est plus complexe en termes de gestion parce que là, on commence à se poser la question, « Ouais, j'économise, mais je vais payer l'impôt. » C'est pas un impôt différé, le REER. C'est une économie permanente qui nous permet de ressortir les rendements à l'abri de l'impôt. Parce que ce que vous allez...
Mais c'est un impôt différé quand même.
Non, parce que ce que vous allez prendre au début qui va vous donner une économie fiscale, si on regarde l'investissement que j'aurais mis, OK, je mets 1000 $ ça me coûte 30 % d'impôt, il me reste 700 $ à investir, c'est ce 700 $-là que j'investis qui va m'apporter du rendement. Ouais. Parce que le 300 $ lui, va servir à payer l'impôt au moment où je vais ressortir. Fait que l'impôt que je paie au départ va payer l'impôt à la sortie et ce qui va me rester, ça va être le rendement réel que j'ai fait à l'intérieur de mon REER. Mm-hmm. Alors donc, ça, c'est faut penser que c'est ça, là. Et c'est sûr et certain qu'il y a des mauvaises planifications de REER qui se font.
Quelle serait une mauvaise planification?
Mauvaise planification, j'ai une bonne année, j'ai décidé de déduire... vous avez une mauvaise année et vous décidez de déduire votre REER à un taux d'imposition de 30 % et deux
vous
ans
plus tard. Vous voulez dire de prendre l'argent dans votre REER.
C'est ça. Ouais. Non, on investit, on a une économie de 30 % un an ou deux après, on le ressort, mais notre taux d'imposition est rendu à 45 % Ça, c'est une mauvaise planification. Le REER, on revient à la base, c'est du long terme.
En fait,
c'est
quand on met de l'argent dans son REER, André, est-ce qu'on peut dire « touche-y pas, oublie qu'il est là »
La seule endroit où on pourrait...
À moins de vouloir acheter une maison.
Exact.
Et encore là, il faudrait qu'on ne jamais avoir été propriétaire avant?
Oui, il faut avoir une période de 5 ans là, sur laquelle on n'a pas été propriétaire d'une maison.
Et on peut déjà avoir été propriétaire, mais pendant 5 ans, on n'a rien acheté. Là, on peut utiliser son REER, peu importe notre âge.
Exact.
Pour râper, là, ce qu'on appelle...
Oui, le régime d'accès à propriété qu'on appelle. Qu'on a le droit de ressortir jusqu'à 25 000 $ par individu. Ce qui veut dire qu'un couple qui aurait les fonds à l'intérieur de leur REER pourrait ressortir 50 000 $ Le jeu qu'on fait, c'est que s'ils n'ont pas cotisé ces maximums-là, c'est qu'on les fait cotiser pour aller chercher une économie fiscale, idéalement à un taux d'imposition le plus élevé. Et cette somme-là sert à acheter ou mettre un montant de départ pour acquérir la maison. Mm-hmm. Alors donc, c'est un peu ça la stratégie. Mais il faut toujours penser que si on le fait, il faudrait le rembourser. Parce qu'il y a des minimums de 1 000 $ donc il faudrait que ça fasse partie du budget pour le rembourser éventuellement, parce que c'est un véhicule d'économie. Donc, il faut penser que la stratégie REER, c'est d'avoir des rendements à l'abri de l'impôt. La même chose que le CELI. Et ce matin, je suis remonté dans le budget 2008 où on avait introduit le CELI. Et on faisait une comparaison en termes des rendements CELI versus REER, mm-hmm. et c'était la même chose. Donc, on avait déjà annoncé à cette époque-là que vous contribuez dans votre CELI ou que vous contribuez dans votre REER en termes de rendement après impôt, vous allez avoir le même rendement. La chose qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que j'ai d'autre à côté. Si moi, je suis une personne qui a un fonds de pension chez son employeur, qui est dans fonction publique, par exemple, ou dans des organismes paragouvernementaux, ben j'aurais peut-être tendance à aller plus vers le CELI. Mm-hmm. Parce qu'on sait qu'à la sortie, il n'y aura pas d'inclusion au niveau des revenus. Et cette inclusion au niveau des revenus a tendance à amener plus d'impôts et, évidemment, à faire perdre, dans certains cas, des attributs sociaux qu'on reçoit.
Des avantages,
TPS, ouais. Crédit solidarité. Dans certains cas, la pension de sécurité de vieillesse, dépendamment des sommes, on est rendu à peu près à 75 000 $ et plus, on commence à perdre notre pension de sécurité de vieillesse. Donc ça, c'est des éléments à considérer. Mm-hmm. Donc quelqu'un qui a déjà un fonds de pension bien garni, ben il y a tout intérêt, selon moi, d'aller dans le CELI. Quelqu'un qui dit, moi, je mets de l'argent de côté pour la ressortir dans 3, 4 ans, 5 ans parce que j'ai un projet X, je veux aller voyager, je veux prendre une année sabbatique.
Ben là, c'est le CELI encore.
C'est le CELI. À ouais. moins que dans cette année-là, on n'ait aucun revenu, ben là, il faudrait peut-être envisager le REER.
Mais je pense que les gens envisagent le REER, justement, André Boulet, parce qu'ils se disent, ils voient, là, vous venez de nous rappeler, puis moi-même, ça m'a surpris parce que j'allais donner la mauvaise réponse. Vous dites, à quoi sert le REER? Vous dites, c'est dans le fond pour notre retraite plus tard. Vous avez raison. C'est une évidence, mais en même temps, ma première réponse aurait été de dire, c'est pour économiser de l'impôt à court terme.
Non.
C'est comme ça que les gens le voient. Les gens se disent, OK, comment je peux économiser mon impôt? La seule affaire qui me reste, puis c'est beaucoup ce qu'on nous a dit dans les campagnes marketing REER, c'est, si tu as payé trop, si tu as trop d'impôts à payer, ta façon d'économiser, et c'est pour ça que les fonds de la CSN ou de la FTQ sont populaires, parce qu'il y a encore là plus d'avantages à mettre son argent dans ce type de REER, parce qu'il donne, par exemple, 30 % d'économie d'impôts versus...
Supplémentaire.
Oui, supplémentaire. Là, on se dit, OK, là, c'est le seul outil que j'ai pour me sortir un peu des griffes de Revenu Québec puis de Revenu Canada.
Mais c'est faux.
Et c'est ça que les gens voient d'abord. Pas sûr qu'ils voient... Et quand on se met à dire, OK, pour ma retraite ensuite, là, on voit la bourse qui a perdu beaucoup de points au cours des derniers jours. Là, les gens calculent leurs pertes. Là, c'est inquiétant.
Mais s'il n'avait pas été dans le REER, ça aurait été la même chose. Donc, je pense que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est la stratégie d'investissement que vous faites. Mm. Il y a des vieux principes qui restent encore bons et qu'on oublie.
Comme par exemple?
Mets pas tous tes œufs dans le même panier.
Ouais.
OK? Alors donc, l'immobilier, vous allez dire, ouais, mais j'en ai pas d'immeuble locatif. Votre maison, c'est de l'immobilier qui est à l'abri de l'impôt. Il y a d'autres sources, le REEE, le régime enregistré d'épargne études, qui va vous donner un rendement de 30 % en partant par les crédits d'impôt et la subvention fédérale et provinciale que vous allez aller chercher. Donc, il y a d'autres, et là, c'est vraiment basé sur votre situation personnelle et la situation qu'est-ce que vous voulez viser avec vos économies fiscales. Est-ce que pour vous, l'éducation de vos enfants, c'est important? Et dans toute planification financière, le temps joue en faveur de la personne. Si vous commencez à économiser à 40 ans versus à 30 ans, ben à la fin, c'est une question de temps que vous allez mettre beaucoup plus de sous. Donc, c'est le problème, surtout, je vous dirais, au Québec. On ne pense pas à mettre des sous de côté. Et on se retrouve actuellement avec des problèmes où les gens arrivent à la retraite et ne sont pas capables de maintenir leur niveau de vie. Et là, c'est l'État qui est en train de reprendre ça, là. Ils ont sorti, là, au mois d'octobre-novembre dernier, qu'ils vont être obligés de bonifier le régime de rente du Québec. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas assez de sous pour arriver à la retraite et donc ils vont les forcer sur leur paye à aller chercher des sous pour pouvoir avoir assez de sous à la retraite. Le RVER qu'ils ont mis en place, souvenez-vous,
le régime
de la commission
volontaire, ouais.
d'amour, là, ouais. qui a amené ce régime volontaire-là, ben, à ma connaissance, si je regarde ma clientèle, ça ne lève pas sur
le. Les gens ne contribuent pas, je pense.
Non. Il est très restrictif, mais c'est ceux qui visent.
Mais il donne quoi, le RVER?
Le RVER, il donne la même chose, une déduction au niveau fiscal. Il permet à l'employeur, mais ce n'est pas une obligation, de mettre des sous supplémentaires à l'abri de l'impôt, parce que vous ne serez pas imposé sur les sous que l'employeur a mis. Mais.
Que l'employeur aura mis pour vous.
Pour vous. Alors, si vous mettez 3 %, ben l'employeur pourrait contribuer 3 %, mais ce n'est pas une obligation.
En connaissez-vous des employeurs qui le font?
Très peu. Très peu.
Vous êtes capable de m'en nommer trois, là?
Pas tellement.
Non, mais tu sais...
En fait, pour se sortir
ridicule,
de ça...
C'est cette histoire-là.
Ils sont allés... Ouais. Les gens vont vers le... L'objectif de la commission et des constatations, c'est on va mettre des sous, mais vous allez la laisser là pour votre retraite. Mm. Ce qui veut dire que le RVA, tu ne peux pas le sortir. OK? C'est un peu comme les régimes de pension où tu as contribué, où tu es obligé d'atteindre l'âge de 55 ans pour avoir le droit à toucher. Mais, ben, c'est la même chose.
Moins qu'ils donnent des revenus beaucoup plus importants, là, il pourrait y avoir un avantage. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des rendements plus importants?
C'est administré par des grands fonds. Okay,
mais donc, les rendements sont pas...
Et ce qu'il y a d'avantageux, c'est que tu vas bénéficier pour des gens qui sont moins habiles au niveau de la gestion financière. Vous allez donner à des experts la gestion de votre portefeuille à un coût moindre parce que le coût ou les frais de commission sont gérés par l'État. Donc, ils ne peuvent pas charger comme ils veulent. Mais en bout de ligne, ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils sont allés dans le rire collectif. Encore là, l'employeur pouvait en mettre ou n'en met pas. Le seul avantage, c'est que si j'ai besoin de sous, ben, je suis capable de le ressortir. Alors que dans la RVER,
il est pris là,
à moins que des situations catastrophiques.
Il y a Justin qui a été attiré, comme vous avez parlé tout à l'heure, André Boulet, du 5% dans un CELI. Il dit hey, « moi, chez Desjardins, j'ai seulement 0,75%. » J'y dépose près de 1 000 par mois. C'est énorme, ça fait 12 000 par année. J'aimerais savoir 5 %. Dites-moi comment. C'est quoi les taux à peu près, là, les rendements qu'on prévoit là, pour le CELI?
Ça revient toujours à votre tolérance au risque.
C'est ça. Hein?
Tout revient là-dessus. Et on sait que l'AMF est très pointilleux maintenant avec les courtiers pour savoir, on te fait-tu investir dans un programme ou dans des placements que tu es capable de tolérer le risque. Et donc, si monsieur n'est pas tolérant au risque, et on sait qu'il y a peut-être dans certains cas, ben la conseillère ou la conseillère n'a peut-être pas été plus loin parce qu'on sait que l'année passée, le Dow Jones a fait 25 % de rendement. Alors donc...
25?
Oui, si vous regardez, ils ont sorti une statistique, 25 % de croissance dans le Dow Jones. C'est sûr que ça va se corriger.
Alors
là.
Que je pense que si on demande aux gens, d'ailleurs, je serais curieuse s'il y a des gens que ça vous tente de nous dire quel a été votre rendement l'année dernière. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont eu 25 % de rendement. Hein?
Non, mais j'en connais beaucoup qui ont fait entre 10 et 15.
Ah ouais?
Oui. Tout en étant dans un niveau de risque un peu plus risqué. Mais quand même, quand on investit dans des sociétés qui sont là depuis plusieurs années, les utilités. On parle de Jarolowski, Fred, qui a été vendu hier.
Ouais.
Ben, Monsieur Jarolowski, lui, il a un plan de match, les utilités, Johnson & Johnson, ce que les gens consomment. Et laisse aller ça.
Mettons qu'on a un courtier en valeur mobilière qui nous fait du 4, 5, 6 par année, puis qu'en plus, il nous charge 2, 3 % quand c'est...
Ben, en fait,
on magasine son courtier.
Moi, quand je fais des planifications de retraite, je prends un rendement d'environ 5 %. net des frais.
Ah ouais.
À peu près.
Net des frais.
Net ouais. des frais. Donc, entre 4 et 5 % c'est réaliste avec le niveau de risque que les gens habituellement sont prêts à prendre. C'est sûr que si vous avez fait 10-15 % vous avez sûrement perdu 4 % la semaine passée.
Oui, c'est sûr.
Parce que vous étiez dans un niveau de risque plus élevé.
La semaine dernière, il fallait toucher à rien.
Mais je me rapporte à la dernière crise. Ouais. J'ai un client très fortuné qui était rentré dans mon bureau puis qui voulait tout vendre puis il perdait une couple de millions.
Ouais.
On a dit non, on ne bouge pas. Mm. Puis deux ans après, son portefeuille avait cru plus que ce qu'il y avait au départ avant qu'il perde ces sommes-là. Donc, tout reste dans est-ce que j'ai besoin de mon argent tout de suite? Est-ce que j'ai emprunté pour aller investir? Et là, ça peut être dangereux.
Ouais.
Parce que là, si mes actions baissent ou mes fonds communs baissent, bien évidemment, j'ai un ratio à respecter.
Mm-hmm.
Donc, les gens qui ont des situations catastrophiques, c'est des gens qui ont peut-être mal évalué les risques et qui ont été trop agressifs.
Oui, effectivement. André Boulet, restez avec nous, bien sûr. On est en compagnie d'André Boulet, qui est comptable professionnel agréé. Il est fiscaliste également. C'est très utile de l'avoir par les temps qui courent. Si vous avez des questions, 514-790-9850, sans frais, 1-866-790-9850. On parle en particulier du REER, si vous avez des questions là-dessus, sur le SELI également. À tout de suite, tout le monde. On s'interroge sur ce qui nous s'offre à nous à l'époque des REER et des impôts. Est-ce qu'effectivement, ça vaut encore la peine d'investir dans son REER, qui est souvent vu comme le dernier des abris fiscaux? Hein? Il n'y en a pas beaucoup pour les communs des mortels. Le REER est-il un abri fiscal, André Boulet?
Oui, c'est un abri fiscal.
Est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y a le REE, il y a le CELI, la maison. La résidence est un abri fiscal pur. Zéro impôt.
Mm-hmm.
Évidemment, si on va vers les gens qui ont des compagnies opérantes, on a l'exemption pour gain capital pour des actions de petite entreprise qui offre...
100 000 $, c'est ça?
Ah oh non, c'est
plus?
840 000 $ de gain en capital qu'on est rendu environ. Là. Donc, c'est très intéressant pour les gens qui sont en entreprise.
Et bien sûr, il y a les comptes au Bahama, mais ça ne nous concerne pas.
Je connais pas ça.
On a Alain avec nous. Bonjour, Alain.
Oui, bonjour. C'est juste pour un point que j'ai remarqué que souvent, qu'on mentionne pas assez souvent comme avantage concernant
ouais.
les REER, que
ouais.
moi, j'ai pu constater que j'aimerais faire part à vos auditeurs. C'est le fait que nonobstant le rendement qu'on a du retour d'impôt, c'est qu'on peut jouer avec la braquette. C'est-à-dire que si, mettons, une année, mettons, quelqu'un a gagné 70 000 $ là, il se trouve être dans une braquette d'imposition assez élevée, mais par contre, s'il fait bien ses calculs, qu'il fait en sorte que quand il arrive à sa retraite, que là, qu'il doit suturer, mettons, quand t'es rendu à 71 ans, quand transférant en fait, t'as pas le choix de prendre un minimum, là, mais tu peux être d'une braquette d'imposition dont le gouvernement, cette portion-là, ce pourcentage-là plus bas, en réalité, le gouvernement va jamais te le demander si t'as un gain que tu gardes tout le temps. Fait que ça, je trouve, c'est un bel... Puis ça, c'est sans compter aussi les solidarités. Pour les gens à faible revenu, comme moi, il y a une année, j'ai pris 24 000 $ de REER. Ça m'a permis d'avoir le crédit sur la TPS, la TVQ, puis aussi pour la solidarité pour les gens qui gagnent moins.
Ah,
alors
okay.
que si j'aurais pas pris de REER. Fait que il y a le rendement dû au placement, oui, d'une part, mais il y a cet avantage
qu'elle a aussi. Ouais.
Oui,
et combien vous gagnez, vous dites, Alain, votre revenu?
Le revenu,
oui.
Ben c'est parce que c'est disons que ça fluctue là, mais l'année que j'ai pris 24 000 $
ouais.
en REER,
ouais.
Cette année-là, je crois que j'avais fait 55 000, mais je dois vous dire une chose, c'est que les périodes de REER que t'as pas pris durant les années antérieures là, bien tu peux
sont cumulatifs.
Ouais. Oui, c'est cumulatif. C'est la raison pour laquelle j'ai pu avoir au-delà du 18 % là,
ouais.
parce que c'était pour des REER. Parce que moi, j'ai choisi de payer ma maison avant.
Mm-hmm.
Là, quand ma maison a été finie de payer, j'ai éclairé mon hypothèque. Bien là, je me suis dit, tiens, je vais prendre des REER.
Ouais. Et justement, André voulait parler de ça pour les gens qui font entre 30 et 50, 55 000, mettons. Vous pouviez parler des avantages qu'on avait, qu'on pouvait perdre d'ailleurs aussi en changeant de braquette comme ça.
Oui. Ben, en fait, il y a deux éléments dans ce que vous avez apporté. Première des choses, c'est l'inclusion à un taux plus bas. Si on dit que en fait le REER, son objectif premier, c'est de vous donner un rendement libre d'impôt,
mm-hmm.
Lorsque vous allez inclure à un taux ce que vous avez déduit de façon plus basse, ça va juste augmenter un peu votre rendement que vous allez faire. Et à l'inverse, si je, parce qu'il y en a qui arrivent à la retraite, puis bon, ils avaient planifié, mais ils ont plus de revenus qu'ils pensaient parce qu'ils ont accumulé plus d'argent, ben ça va baisser un petit peu le rendement réel que vous avez eu, mais pas de façon significative. Et plus la période est longue, moins l'effet est grand. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je regardais ce matin, il y a un ancien professeur de l'UQAM, M. Lafrenière, on appelle ça les tables Lafrenière. Vous avez juste allé sur le web puis vous tapez table Lafrenière, mm-hmm. et vous allez trouver des situations. Alors, j'en ai une ici qui est un ménage dans lequel on a deux enfants dont le revenu se sépare 60-40, OK? Le taux d'imposition marginal, en tenant compte de tous les crédits d'impôt que vous perdez, donc le dollar supplémentaire que vous payez, il va varier entre 35 000 et 55 000, à peu près 50-55 000, à pas loin de 80 %. Alors, ce que vous disiez, c'est vrai. Alors, si une année, j'ai du revenu et je suis capable de baisser, parce que, en fait, le REER permet de baisser le revenu net, et ce revenu net-là calcule beaucoup d'avantages sociaux, OK? Alors, donc, ça va vous donner un rendement souvent supérieur à 50 %.
Mm-hmm. Mais ça, faut donc déclarer un revenu de 55 000 et moins.
Mais admettons que, en fait, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'aller baisser notre 55 000 et moins, mm-hmm. de le ramener, parce que si je me ramène à autour de 35, admettons que j'ai gagné, comme monsieur disait mm-hmm. tantôt, 50 000, j'ai pris 20 000 de REER, je suis retombé à 30 000.
Ouais, là, c'est plus avantageux, c'est clair.
C'est très avantageux. Là.
Ouais. Mais quelqu'un qui fait...
Donc, ça veut dire, Isabelle, ouais. que quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup, ouais. ça peut être intéressant quand même de cotiser au REER.
Ouais. C'est important de le dire, parce que c'est souvent une question que les gens posent.
Ouais.
Donc, à partir, est-ce que des montants... Bon, évidemment, quelqu'un qui fait 30 000 $ n'a peut-être pas besoin non plus. Là.
Bien, ça dépend du revenu familial, comme ouais. on vient de voir.
Ouais.
C'est vrai que ça dépend du conjoint, mais disons, votre conjoint est allé travailler une année, puis elle a gagné ou il a gagné 10 ou 15 000, puis il y a des cotisations réelles non effectuées.
Mm-hmm.
Bien, ça serait peut-être intéressant de ramener son revenu à zéro, puis elle va ou il va tomber à charge de mm-hmm. l'autre conjoint, puis on va aller chercher 1 300, 1 400 $ d'économie fiscale.
Toujours mieux dans nos poches que dans la poche du gouvernement.
Exact.
Qui le donne aux médecins.
Oui.
Sylvain, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
OK. Moi, j'ai 57 ans, puis on va faire une histoire courte. Donc, vu que j'ai eu des problèmes, j'ai dû retirer mes REER. Bon, là, au point où je suis rendu ma vie, je recommence à être capable de reprendre des REER. Bon, ça fait juste un an, j'ai recommencé. Là, j'ai à peine mis un petit 2000, parce que j'ai fait aussi la grosse vie il y a quelques années. Fait que, en tout cas, je reprends ça en main. Puis là, je me suis fait dire des choses, j'aimerais me faire corriger si c'est vrai ou pas que, bon... Il y a un revenu supplémentaire garanti que le fédéral donne, je crois. Puis si je prends des REER, ben je le perds automatiquement. Je prends 500$ dans le mois, hop, le fédéral me le coupe. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Une part. Deuxième part, c'est... Bon, là, étant donné que j'ai 57 ans, je prévois, OK, travailler au moins peut-être jusqu'à 70, parce que j'ai une job facile, mm-hmm. puis c'est payant, puis mm-hmm. tout, fait que je vais attendre pour mes REER, je suppose. Et au moment, là, y a-t-il un nombre d'années qui dit que, bon, OK, 10 ans et moins, non, mets ça dans un CELI, mais 10 ans et plus, OK, vas-y, mets ça dans des REER, ça vaut la peine. Quel des deux? Tu sais, y a-t-il un barème d'années que ça pourrait être logique?
Oui, André?
Bon, première des choses concernant le revenu, le supplément du revenu garanti, c'est vrai qu'il existe ce supplément de revenu garanti-là, et au moment de la retraite, chaque dollar supplémentaire que vous gagnez vient réduire le montant du supplément de revenu garanti. Donc, dans cet objectif-là, et compte tenu de votre âge, j'aurais tendance, personnellement, à aller plus vers le CELI. Et le CELI, comme on a dit au tout début de l'émission, et le REER, tout ce que ça vous donne, c'est un rendement libre d'impôt. Donc, à partir de ce principe-là, que vous l'ayez dans le CELI ou dans le REER, l'avantage, c'est qu'au moment de la sortie des fonds, dans le CELI, ça ne sera pas imposable. Et donc, dépendamment des autres sources de revenus que vous aurez, vous allez peut-être pouvoir bénéficier du supplément de revenus garanti. La même chose au niveau de la période de temps de détention. Les deux sont à l'abri de l'impôt. Alors donc, que ça soit dans un ou dans l'autre, il n'y aura pas plus
d'avantages.
Il
n'y
aura pas d'année.
Oui, voilà. J'ai Maggie qui pose une question par rapport au régime d'épargne études. Elle dit qu'elle vient de retirer 5 000 en fonds d'études, régime de REE, pour sa fille qui est au cégep. Elle voulait savoir, est-ce que c'est déclaré sur ses impôts à elle ou dans les impôts de sa fille qui se trouve avoir à peu près 5 000 $ par année là, avec son travail étudiant?
Bon, prenons pour acquis que sa fille est aux études.
Oui,
ça serait sa fille qui va avoir le...
La déduction, hein?
Ben, qui, pas la déduction, l'inclusion du
revenu.
L'inclusion du revenu, c'est sa fille qui va l'avoir.
C'est ça. On s'en rend compte, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait oubliées, André? C'est toujours ça.
Ben, en fait, sachant que les deux font la même ouvrage, il s'agit de voir quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'argent qu'on met de côté, et revenons à la base. Le REER, c'est pour la pension.
Ouais.
Et le CELI, ben, c'est une autre façon de mettre de l'argent de côté, libre d'impôt, mais minimisé à 5 500 $ actuellement, alors que le REER, on est à 26 000 environ qu'on peut mettre de côté par année.
Ouais.
Et le conseil au niveau financier, ben, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Mm-hmm. Et ça, ben, on ne le dira jamais. Quand la bourse est en folie, tout le monde se lance sur la bourse, mais l'histoire dit que ça redescend. Mm. Et donc, il faut être capable d'assumer cette redescente-là.
Et la question à 1 000 à chaque fois, est-ce que c'est plus payant d'investir en bourse ou d'investir en immobilier?
Quel 1 000 que vous me demandez? Je vous dirais que...
Ben, je peux déjà répondre à votre place parce que...
Moi, je pense que l'immobilier est plus rentable.
Oh mon Dieu, c'est rare que les gens soient d'accord avec moi là-dessus. Parce que j'ai toujours des gens qui me disent, ouais, vous savez, sur 20 ans, la bourse souvent est plus avantageuse. Mais je vous dirais que depuis les dernières années, je suis pas sûr que ce soit encore le cas. Depuis les 10 dernières années, en tout cas depuis 2008.
Ça, c'est mon opinion, mais je pense que Montréal va connaître dans les prochaines années une éclosion importante dans les revenus locatifs.
Une éclosion?
Oui. Dans le sens que, écoutez, on sait que les prix ont commencé à Vancouver, sont plus abordables. Bon, on est rendu en Ontario.
Déjà.
Et là, ça commence. Quand je parle de Montréal est aux alentours. En très loin de banlieue, je suis pas sûr, mais je m'attends à ce que le rendement annuel de croissance soit important. Et
En tout cas, ceux qui se sont achetés un condo au centre-ville de Montréal l'année dernière ont fait à peu près 8 % de rendement là, en moyenne.
Ouais.
C'est quand même très bon, puis c'est probablement plus que ce qu'ils ont fait à la bourse pour la même période.
Je vous dirais, Isabelle, ben, outre le fait peut-être que vous pouvez perdre des locataires, là, vous contrôlez.
On a l'impression d'avoir plus de contrôle.
Oui,
on dirait qu'on pilote l'avion.
Vous avez moins de stress.
Exactement. Merci beaucoup, André Boulay. Toujours intéressant. Je rappelle votre livre « Réduisez vos impôts 2017 », bien sûr. On s'arrête ici. Tout de suite après la pause, je reçois Marcel Leboeuf et Sylvie Boucher. C'est la 800e d'une pièce qui continue d'attirer du public. Ladies Night, tout de suite après. Restez là, tout le monde.